On parle de lutte contre le réchauffement climatique sur votre radio associative. Entretien avec deux personnes d'Arras et des environs qui font partie de la coalition Climat 21 Nord-Pas-de-Calais. À notre micro, Daniel, adhérent de plusieurs associations, notamment de l'Alter-Circuit à Saint-Laurent-Blangy, et Hervé Dieval d'Attaque Artois. Avant de nous parler des différents rendez-vous qui se profilent à Arras et à Lille, il nous parle de cette coalition Climat 21 et de comment elle est née.
L'idée est partie en fait après la COP de Copenhague, où les attentes étaient assez importantes et puis finalement il n'y a pas eu de résultats escomptés. Et à ce moment-là, les ONG, les associations de solidarité internationale ont pris conscience qu'il ne fallait peut-être pas laisser uniquement les dirigeants faire des propositions sur le climat, mais que tous les citoyens étaient concernés. Et à partir de là, donc, ils ont mis en place, ils ont essayé de regrouper toutes les associations et les organisations de la société civile qui se sentaient aussi responsables de ce problème. Et alors, donc, il y a eu la coalition Climat 21 qui regroupe plus de 130 organisations de la société civile, des syndicats, des associations de solidarité internationale, des organisations confessionnelles, des ONG de défense des droits humains et de l'environnement, et aussi des mouvements sociaux. Donc cette coalition Climat 21, puisqu'il y a 21 ans en fait qu'il y a des COP sans résultat, et avec, même si ça avance sur certains points, je crois que les vrais problèmes n'ont pas été abordés, puisque même déjà pour cette COP 21, on a éliminé les discussions sur les océans, sur les transports en avion, etc. Donc il y a tous les responsables politiques qui essayent d'éviter certains problèmes qui pourraient remettre en question leur fonctionnement. Et c'est face à ces freins que la société civile s'organise, et on dit que si on ne fait rien, personne ne le fera à notre place. Donc il faut que chacun se bouge et chacun fasse entendre sa voix auprès des décideurs pour que des véritables choix soient faits.
Peut-être pour clarifier la notion de COP et de coalition climat, hein, pour qu'il n'y ait pas de mélange dans les idées. La COP, c'est la réunion des gouvernements. Donc c'est une réunion annuelle de tous les gouvernements dans le cadre de l'ONU pour traiter du problème du réchauffement climatique. Donc c'est une réunion officielle. La coalition climat, c'est la réunion de la société civile.
C'est important parce que le climat, c'est quelque chose de très grand par rapport à une échelle locale où on se dit qu'on peut peut-être plus facilement agir. C'est important que la société civile s'empare de ces questions et fasse pression aussi sur les chefs d'État, sur cette COP.
Daniel l'a un peu effleuré là tout de suite. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que l'ampleur des décisions à prendre est tellement importante que les négociations actuelles nous laissent voir que les décisions qui seront prises ne seront pas à la hauteur du problème aujourd'hui. Des décisions officielles. Hein. On sait qu'il faut par exemple laisser à peu près 80% de toutes les énergies fossiles dans le sol, et on voit très bien que les gouvernements sont en train de se déchirer pour savoir si les mesures qu'on doit prendre, elles doivent être suivies d'effets, suivies de constatations. Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions ? Enfin, on voit bien que chacun essaye de préserver ses intérêts, mais en préservant ses intérêts, forcément, ils ne préservent pas l'intérêt général. Et que donc la stratégie qui a été adoptée par les mouvements de la société civile, ça a été de dire « faisons pression sur les gouvernements, mobilisons-nous ». Donc l'enjeu essentiel, c'est que tout le monde s'empare de ce problème et que ça ne reste plus l'affaire de spécialistes, que ça devienne le problème de tout le monde. Voilà. Alors forcément, ça entraînera à terme des changements de mode de vie, hein, parce qu'on sait très bien que les décisions à prendre aujourd'hui sont d'une telle importance qu'on ne peut plus continuer à vivre et à consommer comme on consomme aujourd'hui. Cela étant, je pense que l'abandon d'un certain nombre de choses par lesquelles il va falloir qu'on passe n'amènera qu'une amélioration de notre vie dans le sens d'une plus grande ouverture vers les autres, d'un plus grand partage d'un certain nombre de choses, et de réintroduire un peu d'humanité dans les relations entre les gens.
Daniel ?
Oui, alors pour aller dans ton sens, en fait, le gros problème quand même par rapport aux personnes qui travaillent à la COP, c'est qu'en général, ils ont un mandat à court terme. Or, les problèmes du climat doivent se voir et se gérer à très long terme. Donc, ils veulent en général être réélus. Bon, ils veulent préserver leur économie et donc, ils ont du mal à vouloir changer de logiciel parce que, bon, c'est vrai que l'économie actuellement capitaliste, elle s'est développée d'une façon magistrale. C'est très difficile de changer cette façon de voir l'évolution d'une société, alors qu'il existe des systèmes, puisque par exemple, bon, on a vu il n'y a pas longtemps un film qui s'appelle Demain, et on sait qu'il existe d'autres possibles, d'autres alternatives à tous les niveaux. Et donc il faut aller vers ces choses-là qui sont plus douces, qui sont à la portée de chaque individu, qui peuvent justement créer des liens et garder la place de l'humain au centre de la vie et du respect de la nature.
Hervé ?
Ouais, je pense qu'on est confronté à toute une série d'intérêts divergents et contradictoires. Daniel évoque le problème du temps, hein, c'est-à-dire du temps qu'il faut pour qu'on règle. On parle sur des échelles de temps qui sont d'un siècle ou voire plus pour d'autres gaz à effet de serre. Du temps politique qui, lui, est un temps très court puisque c'est le temps d'un mandat, éventuellement d'un deuxième mandat auquel ils pensent tous. Mais après, je crois il y a aussi les intérêts des citoyens d'avoir un certain niveau de vie ou d'avoir une certaine qualité de vie. Il y a les intérêts économiques qui sont aussi derrière, puisque, et je veux dire, si on s'intéresse par exemple aux multinationales, on voit bien que eux, leur intérêt, c'est de continuer à faire des affaires, c'est de continuer à faire du bénéfice pour servir des dividendes à leurs actionnaires ou pour augmenter le prix de l'action de l'entreprise. Donc, tous ces intérêts contradictoires sont à l'œuvre aujourd'hui. Et malheureusement, je dirais, c'est que ceux qui sont le plus entendus aujourd'hui, ce sont les intérêts économiques. Et les intérêts de la société civile, ou d'un certain nombre de gens de la société civile, ne sont pas suffisamment pris en compte. D'ailleurs, on le voit bien dans l'organisation de la COP, les grosses entreprises françaises sont partenaires de l'organisation et financent l'organisation de cette COP. Forcément, s'ils financent, c'est qu'ils s'en entendent quand même un certain nombre de bénéfices en retour. Enfin, quand je dis bénéfices, ce n'est pas forcément de l'argent, mais au moins des bénéfices sur des décisions qui seront prises et qui viendront servir leurs intérêts. Et donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Et je pense que c'est là où il est essentiel que les gens, d'une part, se fassent une idée claire sur le réchauffement, parce que je ne suis pas encore persuadé que tout le monde ait bien les idées au clair par rapport à ça, et d'autre part, sur l'importance que chacun, du positionnement de chacun, pour faire bouger les États. Les États ne bougeront, les dirigeants ne bougeront que si les peuples derrière bougent.
On est toujours en compagnie d'Hervé Dieval, Data Cartois et de Daniel, notamment de l'Alter Circuit. Tous deux font partie de la coalition Climat 21 Nord-Pas-de-Calais. Des raisons évoquées par les observateurs des échecs successifs des COP, c'est une fracture nord-sud entre les intérêts des pays du nord et des pays du sud, avec des pays du nord bien plus pollueurs, mais qui réclament aussi des efforts de la part des pays du sud.
C'est un des grands enjeux, hein. C'est de reconnaître que nous, pays développés, je sais pas, enfin, peut-être pas pareil, pays du Nord-Sud, encore que c'est vrai, ça correspond effectivement à la fracture, mais les pays développés ont l'essentiel de la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre jusque maintenant. Et comment on peut parler de développement des pays en voie de développement sans prendre en compte notre propre développement à nous. Hein. C'est-à-dire que nous, il faut peut-être qu'on baisse un peu, même franchement, pour permettre à d'autres de se développer d'une autre manière et d'une manière peut-être plus respectueuse. Mais c'est donc un des problèmes, une des contradictions qu'il faut qu'on gère aussi dans cette affaire.
Et c'est ce que la coalition Climat 21, d'ailleurs, met en avant, c'est-à-dire que la coalition défend aussi une justice climatique. Parce que si on dit qu'il ne faut pas dépasser plus de degrés d'ici la fin du siècle, en sachant que déjà plus de degrés, c'est déjà énorme. Il faudrait en réalité même pas dépasser plus 1,5, mais ça c'est pour toute la planète. Donc si on permet quand même à d'autres pays de se développer, ça veut dire que nous, les pays occidentaux, on doit effectivement faire toute une réflexion sur notre développement et vers quelle croissance on veut tendre. Si c'est parce que la croissance, ça peut aussi vouloir dire remettre en question notre niveau de vie actuel et partir sur une croissance qui serait verte, enfin, mais pas verte trop technique, hein, parce que il y a aussi là des propositions qui sont un peu dangereuses. Mais on peut faire tout un travail autre.
Hervé ?
Oui, il y a un autre point qui, moi, me paraît important, c'est qu'on n'attend pas grand-chose des décisions politiques. Parce qu'on sait, on sait que les négociations telles qu'elles se sont engagées actuellement ne déboucheront pas sur quelque chose de
contraignant.
D'une part, et d'autre part, à la hauteur des problèmes. Mais en même temps, quand on discute avec les gens, il y a une espèce de désespérance du politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup dire « il faut qu'on agisse à notre niveau, dans notre coin », parce qu'on sait très bien que les décisions d'en haut, elles ne seront pas prises. Or, je pense, et je suis profondément convaincu, qu'on ne se sortira pas de ce problème s'il n'y a pas des décisions politiques importantes qui sont prises. Je vais juste donner deux exemples que je donne assez souvent. On est en train actuellement de négocier un petit peu partout dans le monde des accords commerciaux et des accords sur l'investissement. Le but de ces accords commerciaux et d'investissement est de relancer la croissance mondiale, hein, de retrouver des points de croissance. Et pour les investissements, les investisseurs veulent sécuriser leurs investissements. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils mettent de l'argent dans un projet, ils veulent être sûrs qu'il sera rentable et qu'on ne va pas prendre des lois qui viendront contrarier ces investissements. Donc, tous ces accords sont en train de se négocier partout dans le monde. Il y a eu très récemment la signature de l'accord transpacifique entre un certain nombre de pays du Pacifique et les États-Unis. Il y en a actuellement un en négociation avec les États-Unis et l'Europe, qu'on appelle le TAFTA. Et on peut en citer quand même une bonne dizaine d'autres. On est toujours dans une logique de développement des échanges commerciaux. Qui dit échanges commerciaux dit naturellement utilisation d'énergie. Et on sait qu'il faut rentrer dans quelque chose qui est une baisse d'énergie, une baisse de la consommation des énergies. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est, j'entendais l'autre jour Yannick Jadot, qui est un député européen vert à France Inter, qui disait qu'il avait vu la prévision de croissance de Shell. Hein. Donc en fait, c'est les tableaux de croissance pour les 10 ou 20 ou 30 ans à venir que Shell fait voir à ses investisseurs ou à ses actionnaires. Et très clairement, il disait, les prévisions de croissance nous emmènent vers une consommation d'énergie fossile qui nous mène à un réchauffement de plus 6 degrés. Donc comment on peut se sortir de ce problème? Comment on peut attaquer ce problème à la racine? Je pense qu'on ne peut attaquer ce problème à la racine que s'il y a des décisions politiques qui sont prises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un plan politique, on décide d'arrêter toutes les énergies extractives. Je vois pas comment on peut sortir de ce truc-là. Je ne crois plus au fait de dire il faut éduquer les gens pour qu'ils consomment moins, pour qu'ils arrivent, pour qu'ils se passent de la voiture. Le problème est trop important aujourd'hui. Le problème qu'on a à résoudre est beaucoup trop important pour qu'on se limite à des choses qui soient des choses locales. Je pense qu'il faut qu'on arrive à une globalité du problème et ça ne passe que par le politique.
Et le politique ne peut bouger que si les citoyens bougent.
Alors pour bouger, il y a plusieurs rendez-vous justement en fin novembre et puis début décembre. Avant de parler de ces rendez-vous quand même, un mot aussi sur le travail coalition Climat 21 Nord-Pas-de-Calais depuis janvier dernier. Il y a un travail qui est fait à la fois pour organiser les rendez-vous de fin novembre, et puis il y a un travail sur le fond avec les associations.
Voilà, sur la région, à Lille, il y a eu une réunion, en gros une réunion par mois, avec les différentes associations du régional, du Nord et du Pas-de-Calais. Nous avons travaillé sur la mise en place de ces marches et sur la réflexion, bien sûr, de ce qu'était la coalition Climat 21 et l'impact qu'on pouvait avoir sur les territoires locaux. Et donc, à l'heure actuelle, bien sûr, on va faire partie avec les différentes associations locales de ces manifestations. Donc il y aura le samedi 28 à partir de 10h devant le Beffroi une marche
à Arras, alors.
À Arras, oui. Donc une marche pour mettre en évidence les problèmes qui se posent directement sur notre région avec l'exploitation prochaine du gaz de houille qui touche plus de 100 communes autour d'Arras. On est tous concernés par ce problème. Il y a aussi les élevages intensifs qui se développent et qui sont développés et qui veulent encore s'accroître dans la région, que ce soit pour bien sûr les 1000 vaches, mais aussi bien les cochons, les volailles, etc. Ce qui est un problème énorme par rapport à l'impact environnemental. Il y a aussi, bien sûr, tous ces élevages, toute cette agriculture intensive d'ailleurs qui est excessive sur notre région, qui impacte énormément l'eau. Donc il y aura aussi Eau Secours qui sera présente, il y aura plusieurs associations sur le local à Arras qui vont se regrouper pour faire une marche, et on espère qu'il y aura du monde qui viendra nous soutenir et qui va participer, parce que ça concerne chacun de nous. Et ensuite, alors, le dimanche 29 à Lille, donc le démarrage est à 14h30, porte de Paris. Et là, on attend un très très grand rassemblement de toutes les personnes de la région pour porter haut et fort ce message de protection du climat et de pour demander aussi aux politiques de faire des choix contraignants.
Alors ça, c'est le 29 novembre. En même temps, à Paris, il y aura aussi une manif, c'est ça ?
Alors c'est ça, ça rentre dans le cadre d'une marche mondiale, enfin d'un week-end mondial où il va se dérouler un certain nombre de marches un peu partout dans le monde. Voilà. Donc c'est sur le week-end du 28-29. Donc Arras a décidé une action locale le 28 et dans la région, la marche aura lieu le 29. Et il y en a une aussi à Paris, effectivement, et dans un certain nombre de grandes villes de province, soit le 28, soit le 29.
Alors également en marge de la COP 21, à Montreuil, il y a un village alternatif, et puis donc en clôture, on peut dire, de la COP 21, le 12 décembre à Paris, là encore une marche, c'est ça ?
Voilà. Oui. C'est pas forcément en marche, c'est en plein dedans. Voilà, à Montreuil, donc l'installation pendant toute la durée de la COP, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 11, un village alternatif à Montreuil, où un certain nombre d'acteurs vont rencontrer le réchauffement climatique, vont s'installer. Et puis.
Propose des solutions alternatives aussi, bien sûr.
Voilà.
Et
le samedi 12, donc, il y aura une marche, une convergence vers Paris le samedi.
Pour dire, on continue à être mobilisé parce que la COP21 ne terminera pas cette réflexion. Il faut que chaque citoyen sache et se rende compte qu'il faut continuer cette réflexion et ces actions pour préserver le climat, en fait.
Est-ce que les attentats de Paris vont changer quelque chose au niveau de l'organisation de ces événements ? Pour l'instant, un peu tôt pour le dire, sans doute.
Un peu tôt pour le dire, il y a eu un communiqué d'attaque qui est sorti hier. On continue à demander le droit d'organiser les manifestations. Maintenant, je ne sais pas, cet après-midi au Congrès, je ne sais pas trop ce qui va en sortir, quelles sont les décisions qui seront prises, puisque apparemment, Hollande doit... ça doit faire des annonces et demander peut-être la prolongation de l'état d'urgence. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre ce matin. Donc je ne sais pas trop là comment ça va avancer.
Un dernier rendez-vous, puisqu'on a parlé de TAFTA. Il y a un rendez-vous à Rajoy organisé dans le cadre du cabaret des colères, hein, organisé par Colère du Présent à l'hôtel de Guines. Donc ça sera le 24 novembre, c'est ça ?
Voilà, tout à fait, dans le cadre de la semaine organisée par Colère du Présent. Donc Colère du Présent a sollicité ATTAC pour prendre l'organisation, enfin l'animation d'une soirée. Donc ça sera le mardi 24 à 20h30 avec un spectacle d'un garçon qui s'appelle Fred Dubonnet, qui a écrit un spectacle autour des négociations commerciales du TAFTA. Spectacle qui s'appelle « Mais où est donc passé Robin des Bois ?» Donc c'est une approche décalée, très documentée, puisque j'avais vu un précédent spectacle sur un autre thème qui était effectivement très très documenté et néanmoins très humoristique.
Il y a aussi il va y avoir aussi une soirée cinéma au Cinémovida, animée par Paul Masson, mais c'est organisé par Alimentaire. Et justement, ce problème du climat avec les pays du Sud est posé, et c'est intéressant d'avoir aussi une vision plus large de ce problème-là. C'est
lundi
le lundi 30. Voilà. Et il y aura un petit groupe de paysans La Mauvaise Herbe, qui s'appelle l'association, qui seront présents et feront part d'autres solutions en fait pour l'agriculture.
Daniel et Hervé Dieval, qui font partie tous les deux de la coalition Climat 21 Nord-Pas-de-Calais. On vous rappelle les différents rendez-vous de la fin du mois de novembre. Donc à Arras le samedi 28 novembre à 10h du matin, a priori devant le Beffroi, et à Lille dimanche 29 novembre, rendez-vous à 14h30, porte de Paris. Pour en savoir plus, un site internet national, donc c'est coalitionclimat21.org, et puis sur les réseaux sociaux, Coalition Climat Nord-Pas-de-Calais.